Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
Bon, alors on revient sur ce qui s'est passé, ce drame horrible en France d'un professeur décapité. C'est pas le premier attentat islamiste et malheureusement, je crois que ce n'est pas le dernier. Mais là, on dirait que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et là, on dit, bon là, on va arrêter là, de parler, de jaser. On va prendre des actions. On a vu tantôt une mosquée qui était fermée parce que c'était un lieu de radicalisation. Il y a des immigrants illégaux qui ont été renvoyés. Mais pendant très longtemps, on n'a pas agi du côté du gouvernement. On savait qu'il y avait des endroits, des quartiers où les femmes ne pouvaient pas se promener en jupe, où les femmes ne pouvaient pas entrer dans les cafés, mais on n'agissait pas parce qu'on voulait pas passer pour islamophobe. On voulait pas passer pour raciste. Donc, on a fermé les yeux, on a baissé la garde et est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que le cancer islamiste grossit au sein de la République française. Nous allons en parler avec M. Éric Debroise. Il est vice-président fondateur de Vigilance laïque au Québec. Il est avec Jérôme Blanchet-Gravel, co-auteur du livre « L'islamophobie » qui est paru en 2016. Bonjour M. Debroise.
Bonjour Richard.
Bonjour. Alors, premièrement, là, quand vous regardez ce qui se passe en France, est-ce que vous êtes optimiste malgré la tragédie qui est arrivée en disant « enfin, c'est l'électrochoc qu'il fallait » ou ça va être encore la même chose, on va pleurer, on va parler et dans 2-3 mois, on va baisser la garde encore?
Eh bien, comme vous l'avez dit, malheureusement, ce n'est pas le premier attentat islamiste. Ça ne sera probablement pas le dernier. Et J'ai beau dire que effectivement il va y avoir un électrochoc, mais malheureusement, comme à chaque fois chez les politiciens, ça va être un électrochoc momentané, puisqu'on va revenir à nos bonnes vieilles habitudes où on va, sans faire de mauvais jeu de mots, on va se voiler la face et on va oublier, c'est-à-dire que malheureusement c'est encore un dommage collatéral, c'est-à-dire que c'est encore une vie perdue.
C'est ça, parce que si on n'a pas agi au lendemain de Charlie Hebdo, de l'hypercacheur, il y avait quand même là, beaucoup plus de morts. Là, on parle d'un enseignant qui a été décapité. Si on n'a pas agi au lendemain de ça, pourquoi on le ferait là au lendemain de cette tragédie-là et pourquoi on jugerait que cette tragédie-là est plus importante?
Exactement. Rappelons quand même des faits. Depuis 2015, la France est engagée contre le terrorisme islamique tant sur le plan intérieur, donc sur le territoire français, que sur le plan extérieur. Elle est engagée en Syrie, en Libye, au Sahel. Et quand même, depuis 2015, le terrorisme islamique intérieur en France a fait plus de 200 morts. Rappelons quelques faits, vous l'avez dit, les frères Kouachi contre la rédaction de Charlie Hebdo, ça a eu un écho planétaire, c'était le 7 janvier 2015. Il y a eu la prise d'otage du magazine Hypercacher le 9 janvier 2015. Nous avons les attentats simultanés du 13 novembre 2015, notamment le Bataclan, et encore l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui a fait plus de 86 morts et 458 blessés. Très franchement, de vous à moi, est-ce que la mort de M. Samuel Paty, donc ce professeur d'histoire géo, qui voulait simplement exposer la liberté d'expression à des élèves de 13 ou 14 ans, va avoir un réveil dans la classe politique française? D'autant plus que c'est la première fois où on voit que c'est un attentat qui est commandé même, semble-t-il, par des élèves. Vous voyez quand même le niveau de radicalisation.
Et il y a cette histoire de Mila dont on parle peu au Québec, mais en France, c'était une très grosse histoire. D'ailleurs, ça fait la page couverture du Point la semaine dernière. Donc, cette jeune fille qui a pourfendu, critiqué dans des termes très vulgaires, il faut le dire, là, sur YouTube, l'islam, mais quand même qui peut même plus aller à l'école là, parce que elle est sous protection policière presque 24 heures sur 24. Là.
Exactement, et on en parle peu, mais en fait, ça fait déjà quasiment une trentaine d'années qu'on parle des territoires perdus de la République. Qu'est-ce que c'est ces territoires perdus de la République? Ça équivaudrait au Québec à ce qu'on appellerait à des banlieues, c'est-à-dire des lieux où s'accumule pauvreté sociale, déficience économique et aussi une forte présence religieuse où il y a aussi une forte présence criminelle. Et parfois, il y a même une fusion entre le politique, le religieux et le criminel. Et dans ces zones perdues, enfin ces territoires perdus de la République, eh bien, il y a une forte radicalisation de la population qui, on ose le dire, qui ne se considèrent plus vraiment comme français. C'est ces gens-là qui font régulièrement pression quand des gens critiquent leur religion, mais pas seulement, ça peut être aussi leur société ou leur culture. Et
il y a une hausse, il faut le dire, hein, M. Debroise, il y a une hausse assez inquiétante d'agressions antisémites. La communauté juive, moi je me souviens, j'étais à la marche dans la rue au lendemain de Charlie Hebdo, là, 1 million de personnes dans le centre-ville de Paris, j'y étais, et j'ai parlé à plusieurs personnes d'obédience juive qui songeaient sérieusement à quitter la France.
Eh bien, quand j'étais enfant en France, donc c'est-à-dire il y a à peu près une quinzaine d'années, en France, il y avait à peu près 600 000 juifs. Aujourd'hui, on en estime qu'il y en a à peu près 400 000. Donc, vous voyez, il y a une forte érosion de la communauté juive qui est obligée de fuir parce qu'effectivement, l'islamisme progresse, mais en même temps, les droits et libertés régressent. Et ce sont aussi bien souvent des minorités qui en font les frais, dont la communauté juive. Mais pas seulement, il y a aussi les homosexuels qui se font agresser régulièrement. Les femmes aussi, dont on ne parle pas assez, mais vous l'aviez mentionné, elles ne peuvent plus se promener en jupe, elles ne peuvent plus se promener dans la rue sans qu'on les insulte, que ça soit de salope, de pute, etc. Donc, il y a vraiment un problème de civilité aussi dans nos rues. C'est une forme d'ensauvagement dont on parle de plus en plus en Europe. Mais pour qu'il y ait eu ça, il faut aussi qu'il y ait eu des alliés idéologiques et sur le plan politique. Et je me permets de vous le dire, en Europe, mais aussi en France, la gauche a joué un rôle dedans, dans la hausse de l'antisémitisme et la permissivité de l'islamisme.
Mais justement, ça nous amène là, au thème là, de l'islamophobie, le thème d'un livre que vous avez co-dirigé avec Jérôme Blanchet-Gravel. C'est toujours l'insulte qu'on sort, la menace, là, dès qu'on critique les dérives de l'islam, on se fait taxer d'être islamophobe. D'où vient ce terme-là, islamophobe?
Bon, le terme, il est quand même assez récent. En fait, Monsieur Claude Simard l'a exposé dans le livre. Le terme est plutôt récent en ce sens. Enfin, il a une existence historique avérée plutôt ancienne, en tout cas dans la littérature francophone, mais son utilisation a été faite principalement après le 11 septembre 2001. Et ça a été utilisé notamment par des gens comme Tariq Ramadan, pour justement faire taire ses adversaires. Mmh. Tariq Ramadan, dont on sait aujourd'hui quand même sa vie débridée, qu'il y avait quand même un double standard entre ce qu'il prônait et ce qu'il faisait.
Oui, il est l'objet de plusieurs accusations d'agression sexuelle particulièrement odieuse, Tariq Ramadan. Mais donc, c'est un terme qu'on utilise pour faire taire les critiques de l'islam.
C'est un terme qu'on utilise effectivement pour faire taire les critiques de l'islam. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'islamophobie sert de bouclier à l'islamisme et parfois d'épée pour émiecher les fondamentaux de la démocratie. Donc oui, il faut, mais sans se concentrer essentiellement sur l'islamophobie, il faut que l'on ne loupe pas la cible de l'islamisme. Je me permets de vous le dire, Richard, c'est que en fait, nous devons frapper fort sur l'islamisme. Parce que ceux qui nous verront critiquer l'islamisme vont se dévoiler et nous leur demanderons des comptes, défendent-ils les actes terroristes. Parce que vous remarquerez que souvent, ceux qui défendent l'islamophobie, le concept d'islamophobie, sont ceux aussi qui aisément combattent la lutte contre l'islamisme. Et là, nous devons exposer quels sont ces ponts honteux entre islamisme et islamophobie.
D'ailleurs, on a vu, là, il y a une marche Place de la République là pour protester là, justement contre la décapitation de Samuel Paty. Il y a des gens qui partageaient, qui participaient à cette marche-là, des gens qui sont des idiots utiles, qui sont des compagnons de route des islamistes, là, qu'on voyait dans cette marche-là. Quels hypocrites!
Oui, ben très clairement, parce que de toute façon, ces gens-là sont... Comme je vous l'ai dit, la lutte aujourd'hui, elle n'est pas seulement politique, elle est aussi idéologique. Et je veux pas frapper toujours sur la gauche, mais la gauche a joué un rôle essentiel dans cette affirmation de l'islamisme. Et si je peux me permettre de dire comme ça, c'est le cursus de la violence qui était plutôt à droite autrefois s'est déplacé vers la gauche. Mmh. Et la gauche qui défendait la démocratie, les droits et libertés, aujourd'hui elle se retrouve à défendre les dictatures et la censure. On est passé d'une gauche progressive à une gauche régressive. C'est quand même le comble. Aujourd'hui, on a une gauche qui défend des religions ou des pratiques religieuses les plus abjectes.
Tout à fait. Et là, il y a une nouvelle qui vient de tomber, là, il y a à peu près une heure. Vous savez que Samuel Paty, le professeur qui a été lâchement assassiné pendant quelques jours, a été l'objet d'une campagne d'intimidation qui a été menée par le père d'un de ses étudiants qui avait appelé à une mobilisation contre Samuel Paty. On vient là de découvrir que ce père-là, le père d'un élève, avait échangé des messages par téléphone avec l'assassin de Samuel Paty. Donc, c'était pas seulement le père d'un étudiant là qui trouvait que M. Paty faisait preuve d'islamophobie. Là, il y avait des échanges téléphoniques avec celui qui a tué l'enseignant. Donc, il y a vraiment une constellation, là.
Il y a non seulement il y a une constellation, mais il y a une structuration, il y a une organisation. On a bel et bien affaire à un crime organisé. Dans ce cas-là, on n'a pas affaire à ce qu'on nous répète tout le temps, ce sont des loups solitaires. Ce sont des loups solitaires. Je m'excuse, mais au bout d'un moment, un loup solitaire, deux loups solitaires, trois loups solitaires, ben, ça commence à former une meute.
Ben oui. Tout à fait. Et là, il est temps là, justement que le gouvernement dise, ben là, je m'excuse, ce n'est pas de l'islamophobie de s'en prendre à l'islamisme radical. On s'entend, oui, qu'il y a des musulmans modérés. Est-ce que vous trouvez que la réponse de la communauté musulmane à cet acte-là, elle était suffisante?
Écoutez, la communauté musulmane, elle se retrouve toujours entre l'arbre et l'écorce. Enfin, c'est le gros problème. C'est-à-dire que vous avez toute une constellation de personnalités dans une communauté musulmane, des gens qui sont plutôt libéraux, réformistes, d'autres qui sont extrêmement conservateurs. Et malheureusement, les libéraux et les réformistes sont occultés à chaque fois qu'il y a un événement comme celui-ci et sont mis de l'avant ceux qui sont les plus conservateurs et donc qui auraient tendance à soutenir l'islamisme. On ne peut pas dire oui ou non si c'était suffisant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a des musulmans qui sont réformistes, qui sont libéraux, qui veulent être en paix dans une démocratie, qui veulent soutenir la République française. C'est ces gens-là que nous devons soutenir. Les autres, nous devons sans cesse les combattre. Moi, je pense notamment à Walid Al-Husseini, qui, lui, est un musulman modéré et éclairé, enfin, un ex-musulman même, modéré et éclairé. Je pense à Enda Ayari, qui aussi est menacée par les supporters de Tariq Ramadan. Elle aussi, elle fait partie de ceux qui veulent soutenir une république française dans laquelle les musulmans peuvent vivre en paix avec les autres concitoyens français, quelle que soit leur religion. Et pour cela, eh ben, il y a un pilier, ben, c'est la laïcité. Parce que la laïcité, on sait qu'on est tous des citoyens, on n'est pas en fonction de sa religion, de son ethnie ou de sa culture.
Et en terminant, là, Emmanuel Macron qui disait dans son discours, là, ils ne passeront pas. Je m'excuse, mais ça fait longtemps qu'ils sont passés, les islamistes.
Ben, ils ont déjà passé le Rubicon. Ça fait un petit peu longtemps qu'ils l'ont passé. Il faudrait peut-être en prendre conscience parce qu'ils sont déjà en guerre depuis longtemps contre nous.
C'est la guerre, c'est ça. C'est une déclaration de guerre, là.
Oui, ils l'ont déjà déclaré depuis longtemps. C'est juste que nous, on passe notre temps à dormir au gaz, comme on dirait au Québec.
Oui, puis essayer de discuter avec ces gens-là qui ne veulent pas discuter, qui ne veulent rien savoir. Merci beaucoup, M. Éric Debroise, vice-président et fondateur de Vigilance laïque au Québec. Et comme disait Mathieu Bock-Côté, si l'islamisme déclare la guerre à la France devra déclarer la guerre à l'islamisme, non?
Oui, tout à fait. Je soutiens pleinement cette déclaration.
Merci, M. Debroise. Bonjour.
Prenez soin de vous.